Bien, chers amis, permettez-moi de vous dire ma joie d'être des vôtres. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas mon ton des plus habituels. Mes canalisations supérieures souffrent quelque peu, comme certaines gaines téléphoniques souffrent, paraît-il, dans les alentours de cette chapelle. Mais c'est ainsi. Et vous serez obligés, comme moi, de compter sur le Seigneur pour qu'il veuille bien nous dire quelque chose durant cette soirée, durant la journée de demain. Et il est avec nous. Il est avec nous, il ne change pas. Nous sommes des êtres fragiles et tout ce qui nous arrive est là pour nous garder tout à fait dépendants de lui. Nous avons d'ailleurs le privilège de faire les choses en famille. Notre dernier garçon relève tout juste de 7 semaines de plâtre jusqu'à la ceinture avec une fracture du fémur et des escars, et ma femme soigne une sérieuse sciatique. Vous voyez que c'est familial, c'est la communion dans le plein sens du terme. Mais Dieu est fidèle. Et nous voulons ce soir lire plusieurs passages des Écritures pour introduire notre thème, la voie royale du pardon. Et je lirai un premier passage dans le psaume 130. Psaume 130, un court psaume consacré à cette question essentielle du pardon. Psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption ou la libération est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Second texte, toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, Exode 34, nous lirons les versets 5 à 9. Exode 34, versets 5 à 9. Cet épisode suit d'assez près une partie de la vie du peuple d'Israël, très négative, consacrée notamment au veau d'or. Et donc dans ces versets 5 à 9, il nous est dit que l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Et enfin, un dernier texte, toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie. Donc, avant les psaumes, Esdras, Néhémie, Esther, Job, psaume. Donc, Néhémie, chapitre 9, dans la seconde partie du verset 17, seconde partie du verset 17, cette affirmation, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Donc, deuxième partie du verset 17, Néhémie 9, deuxième partie du verset 17, je relis cette partie, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. En traduisant ce texte littéralement, c'est ce qu'a fait par exemple la Bible de Jérusalem, et qui est là tout à fait fidèle au texte original, il est dit, mais toi, tu es le Dieu des pardons. Et pardon au pluriel. Il est important de tenir compte de cette petite distinction apparemment subtile, mais toi, tu es le Dieu des pardons. Je suis très heureux ce soir, et dans cette série, d'évoquer la question du pardon, ou des pardons. Et en réalité, ce ne sont pas trois réunions qui nous seraient nécessaires si nous voulions traiter ce thème de manière exhaustive, tant soit peu complète. Mais il nous faudrait passer beaucoup plus de temps, et vous ne m'en voudrez pas, je vais devoir, dans la matière abondante, sélectionner, j'ai demandé au Seigneur de conduire de manière à apporter ce que, sans doute, l'Église de Longjumeau et les amis présents ici ont besoin. Je vous connais de plus ou moins près ou de plus ou moins loin. Merci. Et je crois que Dieu sait ce qu'il fait, n'est-ce pas, lorsqu'il nous met sur le cœur de traiter de tel ou tel aspect d'un thème plutôt que d'un autre. Pourquoi traiter ce thème ? C'est une série relativement récente, puisque j'ai longuement travaillé sur cette série pendant mon mois ou ma période sabbatique, entre guillemets, c'est-à-dire celle où je ne voyage pas, où je ne quitte pas notre foyer. C'est une période de recul, de rentrée en soi-même, de mise au point de nouvelles séries. J'y entre d'ailleurs, cette série est la dernière de l'année, de toute une série, et je vais rentrer dans mon cocon à partir de demain soir pour passer un mois complet à l'écart et avec les miens et avec le Seigneur d'une manière toute particulière pour voir ce qu'il a à me dire pour l'année qui vient. Et les messages sur le pardon sont nés après de longues années de cogitation l'an dernier, en décembre et puis en janvier de cette année, dans une longue réflexion, parce qu'il me semblait qu'il correspondait à un immense besoin, non seulement au sein du peuple de Dieu, mais aussi dans le monde d'aujourd'hui. Ne fût-ce que parce que le mot « pardon » disparaît de plus en plus du vocabulaire de notre monde, d'un monde qui a plus ou moins poliment évacuer Dieu, demander pardon, pardonner, ce sont des concepts très étranges dans le monde d'aujourd'hui. Vous vous souvenez certainement de l'un des drames du Liban en 83, en fin d'année 83, cela fait à peu près un an maintenant. Il y avait eu donc à Beyrouth un camion piégé qui avait tué, blessé des militaires français, et aussi d'ailleurs à peu de temps d'intervalle des militaires américains, un grand nombre également. Et j'avais été très frappé en suivant les informations télévisées du 23 décembre 83 de constater que dans le reportage qui avait été fait, la caméra de télévision s'était subitement fixé volontairement sur un bras d'un militaire français. Un militaire français qui était là, qui participait aux travaux de déblaiement et de sauvetage de ses camarades. Et ce que la télévision montrait, c'était un tatouage. Et sur ce tatouage, il y avait simplement cette courte affirmation: Dieu pardonne, moi pas. Et je dirais que ça, c'est tout à fait le reflet de notre temps. Et nous aurons l'occasion de le dire encore. C'est aussi une mentalité qui touche l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église de Jésus-Christ vit dans un monde dur. Dans un monde où la loi de la jungle est reine. Où l'homme est comme jamais auparavant un loup pour l'homme. Et où donc le croyant, le disciple du Christ, se sent lui aussi de plus en plus agressé. Et a tendance, par mimétisme, parce qu'il respire cette atmosphère d'agressivité du matin au soir, à réagir comme ses contemporains. Et donc à ignorer de plus en plus cette importance fantastique du mot pardon. Le refus de reconnaître ses torts, la loi de la haine et de la vengeance rendent difficiles les rapports entre humains. J'ai lu il y a quelque temps deux gros volumes sur l'histoire du Troisième Reich, la manière dont ce Reich est né, puis s'est développé, puis son aboutissement. C'est une histoire très intéressante parce que nous vivons par certains côtés des événements qui s'apparentent à ce qui a entouré la naissance et le développement du Troisième Reich. Et dans la philosophie porteuse du Troisième Reich, il y a notamment Nietzsche qui disait ceci: les hommes forts, les vrais maîtres, retrouvent la conscience pure des bêtes de proie, monstres heureux. Ils peuvent revenir d'une effroyable suite de meurtres, d'incendies, de viols et de tortures, avec des cœurs aussi joyeux, des âmes aussi satisfaites que s'ils s'étaient amusés à des bagarres d'étudiants. Quand un homme est capable de commander, quand il est par sa nature un maître, quand il est violent dans ses actes et dans ses manières, quelle importance pourrait-il bien attacher au traité ? Pour juger la moralité comme il convient, il faut la remplacer par deux concepts tirés de la zoologie, le dressage d'une bête et l'élevage d'une espèce. Voici un des courants philosophiques qui a présidé à l'évolution du Troisième Reich et qui a abouti à la dernière guerre mondiale avec tout ce qu'elle a signifié. Et je dirais que finalement, de plus en plus nombreux sont les hommes de notre temps qui auraient tendance à souscrire aujourd'hui à de telles déclarations. Le 23 janvier 1970, à Lille, Robert, 18 ans et demi, s'est arrosé d'essence, a mis le feu à ses vêtements et est mort peu après. Ses parents ont retrouvé dans sa chambre, sur sa table de nuit, ce court billet: si je meurs, ne pleurez pas. Je l'ai fait parce que je ne pouvais m'adapter dans ce monde. Je l'ai fait en signe de protestation contre la violence, pour revoir l'amour. L'amour, une grande et belle sensation. Dieu, il est difficile d'y croire, mais il est un port pour beaucoup d'hommes. Dieu est un port. Et Dieu est un port parce qu'il pardonne totalement. Il y a dans l'Épître aux Colossiens, plusieurs versets qui tournent autour des pardons de Dieu, des divers pardons ou du pardon de Dieu dans ces dimensions. J'aimerais que nous les prenions ensemble pour avoir une vue d'ensemble de cette question du pardon. Et puis ensuite, nous affinerons notre réflexion. Colossiens 1, versets 13 et 14. Il nous est dit que le Père, notre Père, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Première grande affirmation. Et en réalité, ce qui est intéressant, nous n'allons pas détailler ce texte, mais j'aimerais simplement dire qu'il y a dans ces versets 13 et 14 trois mots qui vont tout à fait dans la même direction. Tout d'abord, il nous est dit qu'il nous a délivrés. C'est un terme qui, dans le texte original, est fort, très suggestif, et qui évoque le combat livré à l'ennemi pour lui arracher les prisonniers dont il a réussi à s'emparer. Tout de suite après, vous avez le terme « rédemption » qui va tout à fait dans la même direction puisqu'il s'agit aussi d'un terme évoquant la libération. La libération d'un esclave ou d'une autre personne en payant une rançon. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous avez encore une troisième expression, n'est-ce pas, le pardon des péchés. Et cette troisième expression ici va aussi dans le sens de libération, parce que nous avons plusieurs termes dans le texte original qui sont tous rendus par le même mot « pardon » en français, mais qui ne vont pas dans la même direction, qui sont complémentaires les uns par rapport aux autres. Et ici, c'est intéressant, n'est-ce pas, de constater que trois fois dans ces versets 13 et 14 revient la même pensée. Dieu nous a délivrés, Dieu nous a libérés. Il y a, je dirais, une sorte de pléonasme, une répétition voulue qui est une certaine lourdeur même, mais parce que Dieu insiste sur le fait que le pardon est libérateur. Alors nous aurions pu consacrer notre soirée simplement à évoquer la dimension libératrice du pardon. Dieu nous libère pour que nous devenions à notre tour des libérateurs. C'est tout un programme. Il y a là connotation d'esclavage, d'oppression, de culpabilité, d'angoisse, et tout un service qui nous est confié une fois que nous sommes libérés auprès des autres, pour être vis-à-vis d'eux des libérateurs de la part de Dieu. Mais nous n'allons pas traiter cet aspect dans le détail. Deuxième dimension de pardon, à peine plus loin, dans les versets 20 à 22. Colossiens 1, versets 20 à 22. Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut, sans reproche. Je m'arrête là. Vous remarquez une seconde dimension qui, elle, va beaucoup nous intéresser ce soir et demain, puisque c'est là le thème que j'ai cru devoir retenir pour notre week-end, le pardon réconciliateur. Dieu non seulement nous libère de toutes sortes d'oppressions, de toutes sortes de fardeaux culpabilisateurs, mais il nous réconcilie. Ensuite, au chapitre 2 et au verset 13 à 15, troisième dimension du pardon, Colossiens 2, verset 13 à 15, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Troisième dimension en ce qui concerne le pardon total. Le pardon généreux, il est dit qu'il nous a fait grâce. Il est question ici de générosité. Dieu est un Dieu généreux. Et sa générosité se traduit par un pardon total et un pardon absolu. Ces versets insistent par l'utilisation d'un vocabulaire de foi sur cette dimension, n'est-ce pas ? Il est question de toutes nos offenses. Il n'est pas une seule offense qui ne puisse être pardonnée, sauf celle qui consiste à repousser l'auteur du pardon. Il est évident que si je repousse celui qui pardonne, comment puis-je être pardonné ? Et c'est cela même ce que la parole de Dieu appelle le péché contre le Saint-Esprit, qui veut, n'est-ce pas, nous présenter le Christ qui seul est capable de pardonner, de sauver, et si nous refusons ce ministère du Saint-Esprit en tant que celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, mais dans l'orientation du pardon définitif, eh bien, il est évident que nous ne pouvons pas être pardonnés de ce péché-là. Mais avec beaucoup de force, le Saint-Esprit insiste sur cet absolu du pardon. Tout ce que nous disons ce soir, en ce moment, nous permet de poser les fondements de plusieurs questions pratiques que nous allons aborder, si nous le pouvons déjà dans la fin de cette soirée, et de toute manière, et demain matin, et demain après-midi. Mais nous nous devons de bâtir la pratique sur la doctrine. Alors la doctrine, parfois, ébouriffe quelque peu certaines personnes, mais c'est une nécessité pour que nous puissions avoir ensuite une bonne pratique du pardon dans nos vies. Et puis alors, ce que j'aimerais souligner aussi, avant d'en venir au pardon réconciliateur, c'est le fait que le pardon libérateur, le pardon réconciliateur et le pardon total, généreux, absolu, débouche sur Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Il est important de lire ce verset 13 dans la perspective de ce que nous venons de dire. Il y a dans les deux premiers chapitres les dimensions doctrinales concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, et ensuite dans les chapitres 3 et 4, vous avez la partie pratique. Et il y a des allusions, n'est-ce pas, qui nous obligent à revenir à la partie doctrinale. Et Colossiens 3, verset 13, nous dit clairement ceci, « Supportez-vous les uns les autres ». Voyez le réalisme des Écritures, il faut se supporter. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous ou faites-vous grâce réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors, j'insiste ici. De même que Christ vous a pardonné. Christ, en pardonnant, nous a libérés. Christ, en pardonnant, nous a réconciliés. Et troisièmement, Christ, en nous pardonnant, nous a pardonné généreusement, absolument, totalement. Ce qui est donc dit ici, c'est que nous devons faire de même. Notre pardon ne doit pas être un mini-pardon ou un pseudo-pardon. Mais il doit être une libération pour l'autre dans nos rapports les uns avec les autres. Et je le dis en passant, bien que ce ne soit pas notre thème retenu, dans l'Église de Jésus-Christ, nous sommes coupables parfois d'empêcher nos frères et sœurs de se sentir libérés. Lorsque nous n'exerçons pas le pardon comme Christ l'a fait. Il est des frères et sœurs auxquels nous ne voulons pas pardonner. Puis il y a des gens qui sont en dehors de Christ, auxquels nous ne voulons pas pardonner. Et parfois nous ne voulons pas pardonner même lorsqu'ils ont fait la démarche. Alors nous verrons, nous parlerons de ces questions de démarche. Mais faisons attention parce que nous sommes parfois de ceux qui emprisonnent les autres. Parce que nous ne voulons pas pardonner leur attitude à notre égard ou à l'égard de tel ou tel de nos proches. N'est-ce pas? Alors faisons attention. Christ, en nous pardonnant, nous a libérés, nous devons être des libérateurs. Est-ce que je ne retiens pas quelqu'un captif, soit de ma rancune, ou de cette espèce d'hyper-sainteté dans laquelle je me drape, en disant, toi, tant que tu ne te seras pas aplati jusqu'au fond du baptistère, tu n'auras pas mon pardon, parce que Dieu est un Dieu saint. Attention, n'est-ce pas, aux tendances aux extrêmes, nous aurons l'occasion d'y revenir. Dieu nous a pardonné en Christ d'un pardon réconciliateur, nous allons le voir. Est-ce que nous exerçons-nous aussi un pardon qui est vraiment un pardon de réconciliation? Ou bien, est-ce que nous disons, je te pardonne, mais... Comme cette maman qui a repris son petit garçon le soir au moment d'aller au dodo, parce qu'elle avait appris qu'il avait usé de son poing avec pas mal d'aisance et de dégâts dans la journée. Alors il s'est expliqué auprès d'elle, il lui a dit longuement ce qui s'était passé. Et sa maman lui a dit, mais tu sais, Seigneur Jésus t'a pardonné à toi aussi, alors est-ce que tu ne veux pas exercer le pardon? Alors il s'est tourné vers sa maman, et il a dit, bon, je pardonne, hein, mais si jamais demain il recommence, est-ce qu'il n'y a pas dans nos vies de ces pardons-là? Et puis enfin, il y a le pardon total. Oh, nous allons y revenir. Ça vaut la peine. Il faut que nous comprenions ce que ça veut dire, pardon total. Et là aussi, je me pose beaucoup de questions. Oh, pas seulement en ce qui concerne la vie des autres, mais concernant mes tendances. Mon vieux moi, qui veut bien pardonner. Mais ce pardon absolu, ça a du mal à passer. Alors venons-en simplement maintenant au pardon réconciliateur. Je dis simplement au passage, parce que je l'ai noté, que un des sept sages de la Grèce antique, Chilon, au VIe siècle avant Jésus-Christ, disait ceci déjà. Les trois choses les plus difficiles sont dans la vie garder un secret, oublier une offense et faire bon usage de ses loisirs. Et je crois que c'est vrai que même la troisième chose est souvent plus problématique qu'elle en a l'air, n'est-ce pas? Mais vous remarquez, oublier une offense faisait partie dans la conception de ce philosophe d'une des choses vraiment difficiles à avaler. Il l'avouait. Parlons donc ce soir un peu déjà du pardon réconciliateur. J'aimerais ici souligner que l'Épître aux Éphésiens en parle pas mal. Il faut dire qu'elle a été écrite, vous le savez, pratiquement dans le même jet que celle aux Colossiens, dans la même situation, au fond de la prison, à Rome. Et il y a pas mal de similitudes. Et dans Éphésiens 2, nous avons une description du problème qui a amené Dieu à exercer sa miséricorde. Éphésiens 2, 1 à 4, laissons parler la Bible. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de la vieille nature, du vieil homme, je l'ai déjà souvent dit, de l'hippopotame, moi, comme disait le maréchal Bush. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et un peu plus loin, versets 11 et suivants, toujours dans cette dimension de pardon, la richesse de sa miséricorde, sa grâce, n'est-ce pas ? L'apôtre d'ajouter de la part de Dieu, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et à la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ça, on l'a lu dans Colossiens 2, n'est-ce pas ? Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, juifs et non-juifs, un seul homme nouveau, l'Église de Jésus-Christ. Un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu. Vous voyez, dans le domaine horizontal, mais bien sûr, dans le domaine vertical, n'est-ce pas ? L'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, les uns et les autres, ensemble, n'est-ce pas ? Réconciliés les uns avec les autres, nous avons accès, parce que réconciliés avec le Père, nous avons accès auprès de lui, dans un même esprit. Oh, cela me rappelle, et j'aime à le dire, mon adolescence. Ayant vécu une enfance et une adolescence très difficile, très tourmentée, dans le cadre d'une vie de famille, passablement marquée par l'épreuve, je me souviens de l'époque où, dans ma crise d'adolescent, confronté avec les problème de tiraillement familial, lorsque mon papa passait sur un trottoir de la ville de 10 000 habitants, nous habitions à la frontière du Luxembourg, je passais sur l'autre trottoir. Lorsque nous étions à table, à l'heure du repas, ensemble, nous étions séparés. Il mangeait sa soupe et je mangeais ma soupe. Il y avait peut-être 50 centimètres entre nous deux, mais ces 50 centimètres étaient le fossé d'une terrifiante inimitié. Et puis, le Seigneur a travaillé profondément dans ma vie. Je lisais les Écritures à cette époque. Et il est évident que ma vie n'était pas du tout en conformité avec mes méditations quotidiennes, loin de là. Et puis un jour, dans une épreuve particulièrement douloureuse, Dieu a touché mon cœur. Et ça a été le démarrage, j'avais 20 ans, d'une vie vraiment beaucoup plus à fond que jamais auparavant à son service. Et ce qui a été beau, c'est que par la suite, mon père est venu à la connaissance de Jésus-Christ. Oh, il est venu alors qu'il avait dépassé la soixantaine. Il avait été de tout temps un homme religieux, bien protestant. Mais on peut être religieux sans connaître le Sauveur et le Seigneur personnellement. Et après donc s'être avancé dans une réunion d'évangélisation, il s'est donné au Christ qui a commencé à changer sa vie. Et je me souviendrai toujours mon émotion intense lorsque, alors que j'étais pasteur en Bretagne dans les années 75-76, mon père est venu jusqu'à Paimpol pour être baptisé par son fils. Quel moment d'émotion! Miracle de la grâce de Dieu, de sa générosité, de sa puissance de réconciliation à cause de la croix, et qui faisait qu'un père et un fils étaient désormais pleinement unis, soudés, appartenant à la même famille, ayant accès ensemble auprès du Père par un même esprit. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Et j'aime à le dire, ce qu'il veut faire, parce que je connais quelques visages, mais pas tous, loin de là. C'est sans doute ce qu'il veut faire pour certains d'entre nous qui, même fréquentant l'Église ici depuis un certain temps, gardent au fond de leur cœur des plaies d'inimitié, des murs de la honte. Il n'y a pas qu'à Berlin qu'il y a un mur de la honte. Il y a des murs de la honte qui brisent les vies d'église, qui brisent nos foyers, qui brisent nos relations conjugales, et que seul le Seigneur est capable de faire totalement tomber. Le pardon réconciliateur. Romains 5, versets 6 à 11, également la même idée. Romains 5, versets 6 à 11. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies, pour des sans-loi. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés, nous reviendrons sur ce terme, par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Je pense à cet émouvant récit que rapportait l'évangéliste Moody. Il parlait d'un Anglais qui avait un fils unique qu'il avait mal élevé, le gâtant trop, au point que ce fils unique l'avait finalement ruiné.
Ce fils ne cessait de se rebeller contre son père, si bien qu'au cours d'une dispute, le père chassa le fils. Le fils déclara qu'il ne reviendrait plus jusqu'à ce que son père l'envoyât chercher. Le père répliqua que jamais il ne le rappellerait. Le fils partit. Et la maman du jeune homme ne pouvait se résoudre à vivre avec un tel conflit. Elle écrivit au fils, le suppliant de demander pardon à son père. En vain. Alors elle se tourne vers le père pour qu'il fasse revenir l'absent. Non, je ne le lui redemanderai jamais. Et le cœur brisé, cette maman de tomber malade et le médecin de perdre tout espoir pour elle. Alors le mari s'est enquis de ses dernières volontés qui ont été toutes simples. Fais revenir mon garçon, seulement cela. Bien, je lui ferai savoir que tu tiens à le voir. Mais non, tu sais bien qu'il faut que tu le lui demandes toi-même de revenir. Et finalement, le père s'est résolu à la chose. Et il envoya un télégramme. Et dès réception du télégramme, le fils revint. Il entra dans la chambre de la mourante. Le père était là, taciturne, qui se détourna de lui. La mère saisit la main de l'enfant. « Maintenant, mon fils, parle à ton père. » Si tu parles le premier, tout sera oublié. Qu'il me parle lui-même le premier. Et d'une main, elle prit la main de son fils, de l'autre, celle de son mari. Et ainsi, à sa dernière heure, elle dépensa son ultime énergie à tenter de provoquer la réconciliation. Et au moment d'expirer, elle plaça les deux mains ennemies l'une dans l'autre et s'endormit. Le fils alors regarda sa mère. Le mari regarda sa femme et finalement, se laissant fléchir, il ouvrit ses bras tout grands et serra son fils sur son cœur. Et là, au chevet de l'épouse et de la mère défunte, ils se réconcilièrent. Et vous avez compris que cette histoire est une merveilleuse allégorie. Elle a eu lieu. Mais derrière la mer se cache en réalité la personne de Jésus-Christ. Et nous voyons des choses très simples, mais qui sont bouleversantes. Nous avons tendance à aimer les choses tellement sophistiquées. La Bible nous ramène toujours à cette sublime simplicité. La réconciliation qui nous est offerte en Christ est quelque chose d'absolument extraordinaire. J'aimerais revenir dans l'Ancien Testament, toujours dans ce cadre doctrinal, pour évoquer un thème important tout au long des Écritures qui porte un nom bien barbare. Je veux parler de ce qu'on appelle la propitiation, ce qui est parfois traduit d'ailleurs par le mot expiation. Nous allons l'expliquer. Vous le savez, le drame de la chute dans le jardin d'Éden, c'est le drame d'une rupture. C'est le drame d'une rupture, d'une communion parfaite entre l'homme et son Créateur. L'homme est chassé de la présence de Dieu. Le péché creuse un fossé, érige un mur infranchissable. J'en veux pour preuve ce texte d'Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Et ce qui est très beau, c'est que très très rapidement apparaît le message de la réconciliation. Lorsque Dieu jette un regard favorable sur Abel, qui offre un sacrifice sanglant, Nous avons déjà là l'annonce de l'Évangile, la nécessité du sang versé pour qu'il puisse y avoir communion, réconciliation. Et puis on arrive, et c'est surtout là que je voulais venir, au livre de l'Exode, au chapitre 25. Il y a au chapitre 25 une annonce qui m'apparaît extraordinaire. Et elle m'apparaît d'autant plus extraordinaire qu'elle succède à une vision absolument terrifiante. Cette vision de la sainteté de Dieu au Sinaï. Vous connaissez ce texte certainement de l'Épître aux Hébreux. Je le lis rapidement. Hébreux 12, 18 à 21 qui situe bien le cadre. Hébreux 12, 18 à 21. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Et c'est juste à la suite, en quelque sorte, de ce descriptif que nous avons dans Exode 25 et au verset 8, cette petite qui avait une relation toute particulière avec Dieu. Et tout de suite après, n'est-ce pas, cette affirmation « Dieu désire habiter au milieu de son peuple ». Et vous avez dans la suite la description du tabernacle, un terme qui signifie tout simplement « demeure ». Et cette demeure est décrite minutieusement en commençant par l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'était une caisse, tout simplement, couverte d'or et contenant les tables de la loi, ces tables qui condamnent tous les hommes. Et il est dit ceci au verset 17, et c'est très important, « Tu feras un propitiatoire d'or pur. » Tu feras un propitiatoire. C'est un mot qui signifie à la fois couvercle, comme tous nos couvercles, mais qui a un second sens. Il signifie également une couverture. Une couverture sous-entendue pour le péché. Verset 20, nouvelle précision. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Donc deux chérubins qui ont la face tournée vers le couvercle et donc au-delà du couvercle, vers les tables de la loi qui sont contenues dans cette caisse. Et enfin, verset 22, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Il est intéressant de constater que dans l'Ancien Testament, l'arche avec ses chérubins est parfois présentée même comme le trône de Dieu. Vous avez deux textes qui le disent, 1 Samuel 4, verset 4, et 2 Rois 19, verset 15. Et c'est donc du haut du propitiatoire que Dieu acceptait de rencontrer Moïse et de lui parler. Tout simplement parce qu'une fois par an, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, faisait à cet endroit l'aspersion du sang en expiation pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Ce fameux Yom Kippour, cette fête du grand pardon qui occupe encore une place dans la vie d'Israël à l'heure actuelle. C'est Lévitique 16, versets 14 à 17 qui évoque cela. Voyez toute cette dimension d'un message de réconciliation sur la base du sang des sacrifices. Dieu qui accepte de demeurer au milieu de son peuple Dans la mesure où le sang intervient dans le sanctuaire. Exode 29, verset 38 et suivant. Exode 29, verset 38 et suivant. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Deux agneaux d'un an, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième d'épha de fleurs de farine, pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée, et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation. De la tente d'assignation, voyez un terme assez particulier, qu'on pourrait simplement traduire par la tente du rendez-vous, ou encore la tente de la rencontre. Et il est intéressant de constater que dans la Bible, le tabernacle est appelé 150 fois tente de la rencontre. Un Dieu qui veut rencontrer l'homme, n'est-ce pas? Mais cette rencontre avec l'homme ne peut se faire que sur la base d'un sacrifice perpétuel de cet agneau qui est offert matin et soir, dont le sang est versé. Il y a dialogue, c'est ce qui est affirmé d'ailleurs très fort ensuite, n'est-ce pas, au verset 42. C'est là que je me rencontrerai avec vous, que j'aurai rendez-vous avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là, j'aurai rendez-vous là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Voyez cette insistance sur le désir de Dieu de vivre dans une relation de rendez-vous continuel avec son peuple, dans la mesure où le sang de victimes innocentes était interposé entre les tables de la loi de Dieu qui condamnait l'homme et lui-même dans sa sainteté. Et tout ce message du tabernacle et des sacrifices annonce de manière voilée la mort de Christ, son sang versé pour qu'il y ait rencontre, pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait communion entre la créature et son créateur. Au point que dans le texte grec de la version grecque de l'Ancien Testament et dans le texte grec du Nouveau Testament, vous avez une similitude de vocabulaire. Si nous allons dans Romains 3, 25, nous trouvons exactement le même langage que dans les textes que nous avons parcourus. Romains 3, verset 25, c'est lui, Christ, que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Christ, moyen de propitiation, moyen de rendre Dieu favorable à ceux qui mettent leur confiance dans son sang versé sur la croix. Même idée dans 1 Jean 4, verset 10. 1 Jean, chapitre 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime, on devrait traduire ici en réalité, propitiatoire pour nos péchés, victime rendant Dieu favorable, propice vis-à-vis de nous, dans la mesure où nous nous tournons vers le Christ. Donc, c'est la mort de Christ sur la croix qui rend Dieu favorable à sa créature. Rien de plus et rien de moins. Et j'aimerais ici souligner l'importance de ce que nous avons terriblement tendance à banaliser dans nos vies. Je crois que nous disons les choses si souvent tellement légèrement lorsque nous parlons du pardon de Dieu. J'ai là, sous les yeux, une illustration qui va nous aider à comprendre cette pensée. La question que nous voulons nous poser, comment est-il possible de subsister dans la présence d'un Dieu saint? Je lis en ce moment le livre du prophète Ésaïe, et je suis frappé dans le livre du prophète Ésaïe par la dimension de la colère de Dieu. Et nous devons faire attention lorsque nous parlons de pardon de Dieu, de miséricorde, de ne jamais dissocier pardon, miséricorde, grâce de toute l'autre dimension, à savoir de cette dimension de justice, de sainteté, de majesté, de colère, de courroux de notre Dieu. Il nous est dit dans la Bible que la sainteté de Dieu est un feu dévorant. Et ceci nous est dit aussi bien dans l'Ancien Testament, Ésaïe 33, verset 14-15, que dans le Nouveau Testament, Hébreux 12, verset 29. Et je viens de lire que le mot « saint », sous ses différentes formes, apparaît plus de 600 fois dans la Bible. Et j'ai moi-même recensé, rien que dans le livre du Lévitique, pour le mot « saint » et les mots de la même famille, 120 fois dans ces chapitres du Lévitique, cette expression de la sainteté. Dieu est un Dieu saint. Et il nous est dit, par exemple, dans le psaume 15, versets 1 et 2, « Ô Éternel, qui demeurera sur ta montagne sainte ? Celui qui marche dans l'intégrité. » Il y a des textes dans l'Ancien Testament qui nous prouvent tellement clairement que nul d'entre nous, nous ne pouvons subsister dans la présence de ce Dieu parfaitement saint, transparent, qui ne supporte pas une once de péché et d'impureté. Et cela me fait penser à l'exemple de la rentrée du vaisseau spatial dans l'atmosphère terrestre. Même encore à l'heure actuelle, paraît-il, une des navettes américaines a des problèmes à ce niveau avec ses tuiles thermiques. Et cela posait des problèmes beaucoup plus énormes encore au début de l'histoire de la conquête spatiale, où, vous le savez, lorsqu'un vaisseau de l'espace voulait rentrer dans l'atmosphère terrestre, cela donnait lieu à des calculs qui devaient être d'une extrême précision. Si l'angle était trop faible, le vaisseau de l'espace était condamné à rebondir pour aller éternellement s'égarer sur une orbite non prévue. Si au contraire, l'angle d'entrée était trop aigu, ce navire spatial serait désintégré par l'intense chaleur. Alors on calculait donc cet angle d'une manière toute particulière. Eh bien, la Bible nous dit que pour entrer dans la présence de Dieu, pour être réconcilié avec Dieu, il y a aussi un angle d'entrée. Et il y a un angle tout à fait particulier. Et tous ceux qui prônent d'autres angles, plus larges ou plus étroits que celui-là, vont rebondir, n'est-ce pas, dans l'espace. Et ça, c'est le problème des sectes et de toutes sortes de mouvements ésotériques. Il y a un seul angle qui nous permette d'entrer dans l'atmosphère de Dieu. Un seul angle. Cet angle, c'est l'angle d'une sainteté absolue chez l'homme. Si je veux entrer en relation avec Dieu, la seule solution, c'est que je sois absolument saint. Et ça, c'est le désespoir de l'homme lorsqu'il commence à lire la Bible. Et c'est ce qui le dérange aussi. Et c'est là que je reprends mon illustration en évoquant le bouclier du vaisseau spatial. Maintenant, ce sont des tuiles. Mais il fut un temps où c'était un bouclier, une sorte de protection placée à l'avant. Et ce bouclier thermique pouvait supporter la chaleur terrifiante de la rentrée dans l'atmosphère et qui se désintégrait, qui fondait littéralement, mais à l'abri duquel les astronautes étaient cachés. La température montait dans la cabine. C'était un moment très difficile à vivre. D'ailleurs, il y avait le célèbre blackout, n'est-ce pas ? Ce moment qui durait même assez longtemps, pendant lequel la NASA ne pouvait plus avoir contact avec les astronautes et où les astronautes ne pouvaient plus avoir contact avec la Terre. Et c'était un moment terrible dans ce sens qu'on ne savait pas si le contact pourrait se refaire. On ne savait pas si finalement le vaisseau allait résister ou s'il allait finalement se désagréger. Et c'était toujours un moment profondément bouleversant, émouvant, quand le blackout cessait et que le contact avait lieu à nouveau entre les astronautes et les ingénieurs de la NASA et leurs familles, n'est-ce pas ? Et quand le vaisseau était recueilli, on constatait qu'il n'y avait plus de bouclier. Le bouclier s'était en quelque sorte donné pour permettre à ces hommes d'avoir une relation avec la terre pour laquelle ils étaient faits et sur laquelle ils avaient toute leur famille. Et il y a là, je trouve, une image tellement extraordinaire de ce que Jésus-Christ a fait. Je crois que Jésus-Christ, réconciliateur, est notre bouclier à ce niveau-là. C'est dans la mesure où nous acceptons de monter dans cette navette-là, n'est-ce pas ? Cachée en Jésus-Christ. Comme jadis, une famille est entrée dans l'arche qui annonçait le Christ, l'arche de salut. Nous sommes appelés à faire un avec Jésus-Christ, à nous unir à lui, à mettre notre confiance en lui, à monter en lui, comme dans la navette spatiale. Et à l'abri du Christ, nous pouvons pénétrer dans l'atmosphère de Dieu. Nous sommes faits pour vivre dans la présence de Dieu, comme le poisson est fait pour vivre dans l'eau. Et nous savons une chose, c'est que Christ, en tant que bouclier thermique, a accepté d'être complètement désagrégé, n'est-ce pas ? A fondu sous le soleil de la colère, du châtiment, de la sainteté, du feu de Dieu. Et il y a eu aussi un blackout. Lorsque le Christ était suspendu entre ciel et terre, il y a eu un blackout extraordinaire. Terrible. Un moment de silence. Christ n'avait jamais connu dans toute l'éternité passée un seul moment de silence en quelque sorte, sinon des silences d'amour, mais des silences de séparation, Christ n'en avait jamais connu. Et là, sur la croix, il y a eu le blackout. Le Père et le Fils ont été séparés. La colère de Dieu est tombée sur le Fils bien-aimé parce qu'il était en cet instant lui-même complètement devenu malédiction, devenu péché à notre place. C'est là quelque chose d'extraordinaire. Et c'est à cause de cela que je peux entrer et désormais vivre dans l'atmosphère de la présence de mon Dieu, réconcilié par le Christ. Quelle est ma conclusion à ce que nous venons de dire sur le plan doctrinal, à ce qui vient de nous être rappelé, que nous savons peut-être déjà, mais nous savons tant de choses avec notre tête, que Dieu veuille les faire descendre profondément dans notre cœur ce soir. J'aimerais tirer trois enseignements extraordinaires qui vont nous accompagner tout au long de notre journée de demain. Premièrement, c'est Dieu qui a pris l'initiative de la réconciliation. Alors qu'il est l'outragé, l'agressé, dans sa parfaite sainteté. Et ce n'est pas un outrage mineur dont Dieu a souffert. C'est de la rébellion de la terre entière, du rejet de la part des hommes, du péché le plus abominable, de tout ce que nous voyons et de tout ce que nous ne voyons pas, n'est-ce pas? Eh bien, malgré cela, et à cause de cela, à cause de cet outrage majeur, Dieu a pris l'initiative. Il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Il nous a aimés le premier. C'est le premier enseignement. Et il aura beaucoup d'importance chaque fois que, ensemble ou individuellement, nous voudrons pratiquer le pardon, si Dieu a pris l'initiative, alors qu'il était l'agressé, et alors que les torts qui lui avaient été causés n'étaient pas des torts mineurs, mais majeurs, quelle doit être notre attitude ? Lorsque nous sommes agressés, et si souvent pour des peccadilles, c'est vrai qu'il est des blessures qui marquent profondément. Mais reconnaissons que notre susceptibilité orgueilleuse nous pousse parfois à ériger en mur de Berlin des fautes qui vraiment n'en valent pas la peine. Surtout, si nous acceptions d'utiliser pour seul maître étalon le pardon que Dieu nous a accordé. Il a pris l'initiative. Deuxième enseignement qui doit dominer toute notre pratique du pardon. Cette initiative lui a coûté extrêmement cher. C'est une démarche qui est imprégnée de sang innocent et de sang divin. Nos outrages, il les a mis sur son Fils, qu'il a puni à notre place. Et j'ose dire ici que le Fils bien-aimé, à un moment donné, en quelque sorte, est devenu quelque peu un ennemi. Oh, pour un court temps, mais quand Dieu voyait son fils, il voyait le péché. Et Dieu est ennemi du péché. Et c'est quelque chose que nous pouvons à peine imaginer de penser que le Père et le Fils qui avaient été unis de l'amour le plus parfait, sans la moindre fausse note, pendant toute l'éternité, ont en quelque sorte vécu, à l'heure de la croix, une situation aussi terrible. La couverture du péché devait être au moins aussi grande que le péché. Et il ne fallait pas moins que le sacrifice du Fils unique, du bien-aimé, pour que le péché dans toute son horreur puisse être réglé une fois pour toutes, définitivement. Je dis que cela doit dominer notre mentalité chaque fois que nous évoquons la pratique du pardon dans notre vie. Si cela a coûté si cher au Père, est-ce que cela ne voudrait pas dire que pardonner, surtout dans certaines situations, c'est accepter de vivre nous-mêmes pleinement la croix? Et c'est vrai que cela peut être précédé de luttes très difficiles dans notre vie, dans certaines situations. Et troisième remarque, nous avons désormais une entrée libre, gratuite, continuelle, hardi, selon le texte grec, nous pouvons entrer hardiment dans la présence de l'agressé. Il n'y a pas dans le cœur de Dieu le moindre ressentiment. Il n'y a pas dans le cœur de Dieu le moindre soupçon de haine, le moindre rappel du passé, pourvu que nous nous présentions de la part de son Fils et couvert par son sang. Je suis coupable de la mise à mort du Fils de Dieu sur la croix. Et pourtant, j'ai avec Dieu une relation dans laquelle je n'ai jamais, ni au niveau de la parole, ni dans mon expérience, ressenti une quelconque agressivité, amertume ou un quelconque reproche de la part de celui qui m'a pardonné. Son pardon est absolument total. Total. Et j'aimerais ici vous rappeler quelques affirmations de Dieu lui-même concernant la qualité de son pardon. Vous savez que précisément le jour du grand pardon, Lévitique 16, il y avait une cérémonie toute particulière pendant laquelle on posait les mains sur la tête d'un bouc qui était égorgé et qui prenait en quelque sorte sur lui le péché du peuple tout entier. Mais il y avait un autre bouc qui avait été mis à part et sur lequel aussi on posait les mains pour confesser le péché du peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bouc vivant était chassé. Et il était chassé dans une terre désolée, au désert, où il emportait les fautes du peuple. Et il est intéressant de remarquer que c'était un bouc j'aime à le dire. Ce n'était pas un chien, pas même un chat. Tout simplement parce que le peuple d'Israël n'aurait pas du tout aimé, en pleine cérémonie, voir revenir vers lui le chien lâché dans le désert avec le péché du peuple sur lui. Le bouc, on savait qu'une fois qu'il serait dans le désert, il ne retrouverait pas le chemin pour aller vers le sanctuaire. Ceci est important. Même dans le choix de l'animal, n'est-ce pas ? Un animal incapable de se retrouver. Une fois perdu dans le désert, il était bien perdu. Personne n'avait besoin de guetter au loin en se disant « pourvu qu'il ne revienne pas », cela signifierait que notre péché n'est pas pardonné. Pardon de Dieu total et définitif. Psaume 103, verset 12. « Dieu éloigne de nous nos offenses, autant l'Est est éloigné de l'Ouest. » Ésaïe 1, 18. « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs d'un blanc absolument éclatant. » Ésaïe 38, 17. « Tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. » Ésaïe 43, 25, « C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ésaïe 44, 22, « J'ai effacé tes crimes comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. » Jérémie 50, verset 20, « Ton péché est introuvable et inexistant. » Michée 7, 19, « Nos fautes sont mises sous les pieds de Dieu. Tous les péchés sont jetés au fond de la mer. » Ésaïe 55, versets 6 et 7, « Notre Dieu pardonne abondamment. Il ne se lasse pas de pardonner. » Et le plus beau, et c'est ce qui est à la base du titre de cette série, cette parabole du serviteur impitoyable, serviteur d'un roi. Donc, message sur un pardon qui doit être royal chez le serviteur, à l'image du pardon du roi qu'il sert. Matthieu 18, 21 à 35. Oh, c'est un texte extraordinaire. Il nous est dit que ce roi avait remis à son serviteur une dette immense, une dette de 10 000 talents. Alors, j'ai fait un petit calcul. Un talent égale 6 000 deniers. Un denier, c'était le salaire correct pour une journée de travail en Israël. Donc, 10 000 talents, 60 millions de deniers. Ce qui représente 60 millions de journées de travail, soit 164 383 années plus 56 jours. Voilà le pardon que Dieu avait accordé à ce serviteur. Quel pardon généreux. Et bien sûr, ce que Dieu voulait nous dire par cette parabole, c'est que la dette que nous avons vis-à-vis de lui est incalculable. Même le plus richissime milliardaire ne pourrait la payer. Elle a coûté la mort du Fils de Dieu, ou elle a coûté la vie au Fils de Dieu. Et le pardon de Dieu n'est qu'un aspect des richesses de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, et je voudrais terminer par là ce soir, que j'expliquerai le mot justification, parce que le pardon de Dieu fait partie de la corbeille de fête que Dieu nous donne au moment où nous sommes réconciliés avec lui par le sacrifice de Jésus-Christ. Dans cette corbeille se trouve le pardon. Mais cette corbeille s'appelle la justification. C'est-à-dire que non seulement nous sommes libérés, non seulement nous sommes affranchis, graciés, mais la justice de Christ est mise sur notre compte. Non seulement Dieu remet notre compte à zéro. Dieu efface le débit, mais il inscrit une somme incommensurable en crédit, et cette somme, c'est sa richesse. Voilà ce qu'est la justification. Dieu nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Il nous innocente, mais de surcroît, tout en nous innocentant sur la base du sacrifice de son Fils, il nous comble de toutes ses richesses en nous donnant le caractère de Christ, la puissance de Christ, l'amour de Christ, la générosité de Christ. Tout ce qui est en Christ devient absolument nôtre. Et c'est à l'intérieur de ce cadeau que se trouve le pardon lui-même. J'ai ici un document que j'aime beaucoup. C'est un ami qui me l'a remis il y a quelques années, un ami qui a 80 ans. Et cet ami est venu d'ailleurs, il y a maintenant une dizaine d'années, garder notre aînée quand elle était bébé, et que nous partions faire des tournées de réunion en Grande-Bretagne à cette époque. Et nous disions avec une certaine fierté, pour faire froid dans le dos, « Vous savez, chez nous, nous avons quelqu'un qui garde notre bébé, et ce quelqu'un, c'est un homme qui a échappé au bagne d'un rien, qui a fait les plus terribles prisons de France. Bref, quelqu'un qui a eu un lourd casier judiciaire. » Et les gens se disaient « Malheur, comment est-ce que monsieur et madame Decker osent confier leur petite Myriam à un tel personnage ?» Voilà le casier judiciaire de cet ami. Il y a même eu des problèmes de crise de logement, n'est-ce pas? Il n'y avait pas assez de place, alors on a dû faire des rallonges à ce casier. Tellement il y a eu de condamnations. Et d'ailleurs, dans ces condamnations, il y a eu notamment la condamnation au bagne, à Cayenne. Puis il se trouve qu'avec la guerre et l'intervention du commissaire Péan et de l'armée du salut, le bagne finalement a été supprimé, a été fermé, et notre ami s'est retrouvé en prison, dans les prisons les plus dures de France, où il a vu les gens mourir comme des mouches autour de lui. Et c'est dans une de ces prisons qu'il a reçu un jour un évangile, de la part de celle qui l'a ensuite épousé d'ailleurs, qui est beaucoup plus jeune que lui, mais ils forment ensemble un attelage extraordinaire dans l'œuvre de Dieu. Il a lu l'évangile, il s'est donné au Christ. Il a été réconcilié avec le Père par le Fils. Et sa métamorphose, aussi bien physique, parce qu'il faut voir les photos, que morale et spirituelle, a été tellement extraordinaire que cet homme, tout d'abord, a été gracié par le président Vincent Auriol, je crois que c'était en 1953. Et d'autre part, alors qu'il était interdit de séjour dans plusieurs pays d'Europe à cause de toutes les bêtises qu'il avait faites, s'est vu d'une part réintégré, mais aussi a reçu un nouveau casier judiciaire. Le voilà, vierge, ce qui est rarissime. Et Dieu l'a utilisé depuis 1953 jusqu'à ce jour, à l'âge de 80 ans, pour exercer un service extraordinaire dans les prisons de nos pays. Eh bien, voyez-vous, ce que Jésus-Christ a fait est plus extraordinaire encore. Ce n'est pas seulement un casier judiciaire vierge qui nous est remis lorsque nous venons à Christ. Mais c'est un casier judiciaire où sont inscrits non pas des délits, mais toutes les richesses de Christ. Nous sommes revêtus de la justice de Christ. Tout ce qui est à Christ, désormais, est à nous. Je voudrais m'arrêter là, après ces trois conclusions, je vous les rappelle. Premièrement, c'est Dieu qui a pris l'initiative de la réconciliation alors qu'il est l'agressé et que l'agression est grave. Deuxièmement, cette initiative lui a coûté extrêmement cher. la séparation, la mort de son fils sur la croix. Et troisièmement, il n'y a plus de sa part le moindre ressentiment, la moindre amertume. Non seulement Dieu nous pardonne, mais il nous enrichit. C'est-à-dire que son pardon est accompagné de générosité. Ce n'est pas un pardon tout sec. C'est plus que cela. Il y a toujours un plus au bout de l'amour de Dieu. Alors souvenons-nous de cela demain. Tout au long du peu que nous allons dire avec nos faibles moyens, souvenons-nous que ces trois dimensions extraordinaires du pardon de Dieu au niveau de la réconciliation doivent se retrouver absolument dans notre pratique du pardon. Le disciple du Christ n'est pas plus grand que le maître, n'est-ce pas? Heureux ceux qui développent une vie de ressemblance avec le Christ dans la pratique du pardon. Seigneur, merci. Merci pour cette soirée. Merci pour le bien que tu me fais. En me rappelant simplement la quintessence de l'Évangile. Merci d'avoir accepté de prendre l'initiative. Toi, l'agressé. Toi, le parfait, le pur, le saint, le juste. Merci d'être venu au-devant de nous. Merci, Seigneur, d'avoir payé le prix dans le don de ton Fils Jésus-Christ. Et merci pour la qualité du pardon, pour l'absence de ressentiment, de reproche, pour ce fait que tu ne reviens pas sur le passé. Il est réglé. Et merci pour ta générosité. Seigneur, nous voulons te demander que cette nuit et la journée de demain nous aide à faire le bilan de notre pratique du pardon, tout comme notre pratique de l'humiliation pour recevoir ton pardon et pour recevoir le pardon de tel frère, de telle sœur, de telle personne que nous avons offensé. Accorde-nous de ne pas perdre de vue le maître étalon du pardon réconciliateur. À ne pas nous comparer aux autres, mais à toi, dans ta parole, pour pratiquer le pardon comme tu nous as pardonné en Jésus-Christ. Gloire à ton nom, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions. Sois béni pour ta parole, vivante, efficace, bienfaisante. Nous t'adorons en Jésus-Christ.